France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
L'inventeur au cinéma de l'incertitude latente, l'aliénation, l'incommunicabilité. Il fut un cinéaste maudit, il fut aussi un cinéaste à la mode. Michelangelo Antonioni ou Le regard mode d'emploi. Rediffusion d'un mardi du cinéma, proposée pour la première fois sur France Culture le 9 mai 1989.
Pronto? Ah, sei tu. Dove sei?
Sono a Sesto San Giovanni, davanti alla Breda. Al solito prato. Ci sono dei ragazzi. Sono sicura che ti piacerà. Stanno giocando con dei razzi, pensa.
Sì, vanno altissimi.
È molto bello. Non preoccuparti.
Non è successo niente.
Ma no. Santo Dio, ti dico di no. Vieni a prendermi, ti dispiace? Vieni subito.
Allô? Allô, vous m'entendez?
Oui.
Bonjour,
bonjour.
Jeanne Moreau. Vous avez incarné le personnage de Lydia dans La Notte de Michelangelo Antonioni. Et j'ai envie de vous demander comment vous voyez ce personnage aujourd'hui? Quelle trace a-t-il laissé en vous?
Ben, je voudrais d'abord parler de Michelangelo Antonioni, que j'ai connu dès 1950. J'étais à la Comédie Française. Et il m'avait contacté parce qu'il voulait que je joue le personnage principal dans son premier film, I Vinti. Malheureusement, l'administration de la Comédie Française ne m'ayant pas donné le congé nécessaire, je n'avais pas pu le jouer. Et c'était Itcheika Chourou qui l'avait fait. Et vraiment, lorsqu'il est revenu avec ce projet de La Notte, et avant de tourner L'Aventura, nous étions restés en contact pendant toutes ces années. J'étais vraiment très heureuse de pouvoir dire oui. Naturellement, à la lecture du scénario, je ne me rendais pas compte. Et puis, au fur et à mesure que le tournage s'est déroulé, un tournage très difficile, le film ne s'appelle pas pour rien La Notte, nous travaillions de nuit, il était très difficile de dormir la journée dans un hôtel, dans une ville aussi bruyante que Milan. Il y avait une grande solidarité et affection, respect mutuel entre Michelangelo et moi. Et nous en avions besoin parce que c'était une période où Michelangelo était très très préoccupé, très très peu loquace, et ça nous a beaucoup aidé en fait. Je m'en rends compte. Le personnage de Lydia, cette solitude accompagnée, c'était certainement un des premiers personnages féminins au cinéma qui traduisait aussi bien l'angoisse d'exister, tout en faisant partie d'un couple. Et Antonioni et son scénariste, bien sûr, ont su tellement précisément traduire cette espèce de déchirement silencieux, cette douleur qui n'est pas spectaculaire.
Ce qui était très difficile à interpréter, je suppose, de votre
Non, ça n'est pas difficile, il suffit de s'abandonner. Et comme je vous le disais tout à l'heure, tout concourait à concrétiser cette solitude dans laquelle j'étais obligée de vivre. En fait, j'étais beaucoup aidée par cette atmosphère, bien qu'au début, je supportais très très mal. Mais on est obligé de souffrir toujours quand on veut faire les choses comme elles doivent être faites. Je dis toujours que, comme les sportifs, à partir du moment où ça fait mal, eh bien, c'est que ça devient bien. Il faut accepter cette douleur et c'est qu'on est en train de faire quelque chose de bien.
J'ai lu, je ne sais pas si c'est vrai, j'ai lu que pendant très longtemps, vous n'avez pas eu envie, vous n'avez pas voulu revoir La Notte.
Je n'avais pas envie de le voir et je fais mon mea culpa, je suis sortie de ce tournage très violemment, agressive contre Michelangelo Antonioni. et je me suis permis d'en parler à des gens qui n'étaient pas de notre profession, et donc ça avait l'air d'être une critique. Et je le regrette, je le regrette. Je veux dire qu'il y a des choses difficiles à vivre lorsque nous faisons des films, mais qui ne regardent que nous. Et maintenant, avec le temps, je me rends compte que ça nous a... En tout cas, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Et je n'avais pas envie de voir cette douleur. Non, c'est vrai.
C'était une douleur qui, comme vous le disiez tout à l'heure, était exprimée beaucoup par le silence. Et tout le monde se souvient...
La marche, par le déplacement, par l'errance. Et puis, il y avait le deuil. Ce meilleur ami de Lydia qui meurt. La fin de l'amour, la fin de la passion, disons, et qui peut préluder au début de l'amour.
Oui, et tout le monde se souvient justement de cette longue marche de Lydia qui est devenue un moment mythique du cinéma.
Oui.
Cette longue déambulation dans la ville.
Enfin, en tout cas, au cas où Michelangelo l'écouterait, je vais lui dire que je l'aime tendrement, que je pense à lui. Et que je le remercie beaucoup.
Eh bien, voilà. Je vous remercie infiniment.
Merci à vous. Au revoir.
Au revoir.
Je voudrais que le public français vienne voir la nuit, préparé à ne pas voir une histoire, disons, régulière, avec des faits liés les uns aux autres. Enfin, une histoire racontée d'une façon conventionnelle. Dans mon film, il n'y a pas d'histoire. Il y a des états d'âme qui sont les conséquences des faits qui se sont passés avant que le film commence, pendant des années. Je cherche, en somme, une vérité plus profonde. Il faut que le spectateur se laisse aller à ce rythme intérieur, qu'il faut qu'il participe, qu'il fasse un effort, le même effort qu'on fait quand on lit un livre. Il y a des films légers, il y a des films douloureux. La nuit est un film douloureux, la douleur des choses qui finissent, des sentiments qui finissent.
Je pensais que on aurait pu surtout parler de l'image, de l'espace, du rapport qu'il y a entre les personnages et l'espace et ces lieux sans qualité.
Oui, enfin chez Antonioni, enfin oui, c'est une attention particulière à l'espace et à ce qu'on pourrait appeler les espaces quelconques. Oui, c'est ça. C'est-à-dire des milieux urbains. Pas forcément en décomposition, non, c'est pas la décomposition, c'est plutôt la déstructuration. C'est un cinéaste qui opère dans une époque qui change, enfin, il arrive à la fin du néoréalisme, enfin, et il est témoin du boom économique. Bon, c'est effectivement un cinéaste qui peut électivement être rattaché à ce phénomène comme ça du boom économique du début des années 60, et... Il est témoin donc d'une transformation non seulement des comportements, amoureux notamment, mais aussi d'une transformation sociale profonde et d'un changement écologique, enfin bon, une urbanisation folle, croissante, etc. Et il reflète ça dans ses films à travers le désarroi. Donc de personnages qui sont déboussolés au niveau de leur relation. Et ça se traduit alors par ces déambulations, par ces crises qui s'expriment d'une façon tout à fait nouvelle, particulière, c'est-à-dire non pas justement sur le mode psychologique traditionnel ou mélodramatique, mais d'une façon blanche, enfin mat.
La rue est inondée de soleil. Lydia marche toujours, lentement, en regardant autour d'elle. Maison haute, moderne, froide. beaucoup de vitres. Intérieur des immeubles et des bureaux vides. Chaleur suffocante. Devant elle, un mur clair, ensoleillé. Quelques rares fenêtres. L'une d'elles est ouverte. Une silhouette de femme passe et le soleil la frappe de plein fouet. Rue de banlieue. Sur le sol, une montre cassée.
Ce qui fait que un peu le caractère d'Antonioni, c'est effectivement une sorte d'attachement à des états de désaffection. Enfin, le dé privatif est quelque chose qui semble tout à fait caractéristique du cinéma d'Antonioni. C'est aussi le trait de sa modernité, si on veut.
Pascal Bonitzer.
Quelque chose se défait, quelque chose disparaît, quelque chose s'évanouit. Et c'est ce processus d'effacement insaisissable qui le séduit, semble-t-il, comme artiste et qui lui donne sa caractéristique. C'est aussi ce qui fait sa difficulté parce que, évidemment, c'est beaucoup plus difficile à un public moyen, des spectateurs, d'adhérer positivement à un processus de désaffection, de mise à distance de soi, de disparition progressive, où on ne sait pas très bien ce qui disparaît. Enfin, cet côté inquiétant comme ça, mais sourdement inquiétant, qu'à des moments de crise positifs, qu'à des explosions de haine, ou à des élans amoureux, ou à des émotions qui sont plus, non pas plus communes, parce que je crois que ces états sont relativement commun, mais plus classiquement exprimé. Bon, justement, je crois que le scandale de l'Aventura, il faut rappeler quand même que ce film, qui est un classique, a fait scandale à Cannes, a été hué, sifflé, quand il était passé à Cannes. Je crois que ça tenait à cette façon tout à fait nouvelle de s'intéresser à des états de désaffection et à une aventure. L'aventure elle-même, dont on ne sait pas ce qu'elle devient au cours de... Ce personnage, cette femme qui disparaît, ce qui est un ressort classique du cinéma, on sait que c'est le titre d'un film de Hitchcock, une femme disparaît. Au lieu de... Bon, la recherche pourrait être tout à fait dramatisée, passionnante, et on ne manquerait pas d'ailleurs de la retrouver. Mais là, non seulement on ne retrouve pas cette femme qui disparaît, mais peu à peu, le sens, le goût de la rechercher quitte également les personnages. C'était cette façon tout à fait nouvelle de raconter une histoire qui semble peu à peu se désagréger elle-même, qui avait tellement choqué, je crois, les festivaliers. Et par la suite, bon, je crois qu'Antonioni a poursuivi cette démarche de plus en plus, enfin, avec un radicalisme dont témoignent comme ça tous les films suivants.
Anna! L'avete trovata?
Disait que dans les films d'Antonioni, rien ne bouge, tout se transforme.
Rien ne bouge, le corps bouge, le corps marche, le corps se déplace, le geste a lieu. Mais ce mouvement est un mouvement coupé de sa fin. Le propre de la narrativité est de conduire une histoire vers son achèvement. À partir du moment où d'autres voies sont possibles, où des interruptions, des suspens, des attentes, des détours interviennent, la transformation n'est perceptible que dans la mesure où elle n'a plus en elle-même sa propre finalité. Ce que nous voyons apparaître dans les films, c'est moins le résultat de cette transformation que son mouvement lui-même. Un passage de forme en forme, à travers de nouvelles formes, ou vers de nouvelles formes, dont la perception sera d'autant plus forte qu'elle ne sera pas happée dans une interprétation, qu'elle ne sera pas captée et rabattue sur une finalité trop lisible en termes psychologiques ou en termes de personnage. Antonioni, à la différence aussi de quelqu'un comme René,
Marie-Claire
ne joue pas sur les rapports complexes du présent et de la mémoire. Il ne joue pas sur l'interruption d'une ligne présente par d'éventuelles traces d'une ligne passée. C'est sur la ligne du présent qu'il intervient. Mais cette ligne du présent, qui est celle qui est reliée à l'épaisseur, à la durée des personnages, il n'entend plus l'exprimer en termes de présence dramatique et psychologique. Le présent ne va pas de soi au cinéma. Si chez Antonioni, nous avons cette impression de présence et d'étirement de la présence, c'est précisément parce qu'il y a une disjonction entre le temps et l'événement. Et qu'à ce titre, le présent devient perceptible parce que le seul événement qui nous soit renvoyé est celui qui inscrit le personnage dans un rapport problématique à l'espace. Si nous regardons aussi bien les errances de Victoria dans l'Eclissée que la longue marche, pourrait-on dire, de Aldo dans Il Grido, c'est toujours à travers ces déplacements, cette mobilisation du personnage, que nous en percevons la présence, l'épaisseur, la durée. Mais cette présence, cette épaisseur et cette durée ne sont perceptibles que précisément parce qu'ils n'ont plus de finalité dramatique, parce qu'ils sont pris dans un contexte de développement spatial. C'est ce qu'on a appelé les fameux plans séquences d'Antonioni. C'est ce sur quoi on a constamment insisté lorsqu'on a désigné la lenteur des déplacements, l'importance des gestes et de gestes ou de mouvements qui n'ont pas de but immédiatement lisible, n'est-ce pas, mais qui rendent immédiatement lisible, en revanche, le fait que si le personnage est présent, c'est par une relation de présence à l'espace et de présence de l'espace en lui qui, précisément, rendra d'autant plus perceptible cette instance du présent qu'elle n'a plus de finalité immédiatement lisible.
C'est nessuno, non? Oh! Senti l'eco. Come mai è vuoto?
Chi lo sa? Io mi domando perché l'hanno costruita. Ce n'è un altro.
J'ai l'impression de pouvoir parler seulement en ce qui concerne la technique, la façon dans laquelle je fais les films, c'est-à-dire mon travail matériel. Parce que parler d'un film, de sa signification, s'il y en a une, des intentions par lesquelles j'ai été poussé à les faire, tout ça me met dans un monde complètement différent du film, c'est-à-dire me pose des problèmes d'expression que j'ai déjà résolu en faisant les films et que je devrais encore une fois résoudre parce qu'ils sont complètement différents de ceux qui m'ont guidé pour faire les films. Et en somme, je devrais faire un autre film pour vous expliquer mon film.
Je te dirai un passage très très fort, comment naît un film. Comment il dit dans un bar, une fille, je vois ça, je me bouge, et comment de tout ça devient, comment il prépare une comme je disais, on n'a pas de même plan. Ah ça je trouve formidable. Comment on prépare un plan, c'est formidable. Et voilà, il me dit, voilà ce qui m'est passé pour m'expliquer comment il prépare un plan. Il m'a dit, voilà, regarde, hier j'étais dans une place. Et une place, il y avait beaucoup de vent, et ce vent soulevait des poussières partout et des bouts de papier. Et il disait, comme c'est photogénique le vent. C'est une phrase qui pourrait plaire beaucoup à Bresson. Et je demandais un café à la fille, à la serveuse. La serveuse était brune, œil mélancolique, geste lent, précis. Mais elle avait été déjà un petit peu déformée déjà. Elle regarde dehors avec un air distrait et je lui dis, mais est-ce qu'il fait toujours si mauvais ici? Non, il dit, maqué, pas du tout. Et puis il s'appuie la main sur la cafetière, la tête sur la main, elle reste là, immobile. Alors voilà, il nous décrit ce qu'il voudrait faire. Elle paraît fatiguée, comment dire, assonnata.
Somnolente.
Ou indifférente. Prise, ensevelie dans ses pensées graves. En tout cas, elle est immobile, et ainsi immobile, elle commence à être un personnage. Ça, c'est très intéressant. Exactement, Piero della Francesca. Immobile, ça commence à être intéressant. Alors, je prépare un plan imaginaire. Je me place de l'autre côté du comptoir. Elle est derrière moi, donc je vois en premier plan son dos. Et au fond, il y a la vitrine oblique. Donc voilà, le personnage en dialectique avec la vitrine oblique qui donne sur le... On dirait un des plans finaux de Provision Reporter, avec la mort du type. En dehors, le vent. La poussière du vent qui vient se presser contre la vitre et scivole là-dessus comme fosse liquide. Elle
glisse,
elle comme, glisse si... comme si c'était liquide. Donc, ce sont toutes des images très poétiques. Et de l'autre côté, en premier plan, la fille de dos. Alors, c'est là la phrase qui me plaît beaucoup. Le rapport entre l'extérieur et l'intérieur, on pourrait dire l'extérieur du bar et l'intérieur du bar, mais l'extérieur et l'intérieur du personnage, est juste. Ce rapport entre extérieur et intérieur est juste. L'image est chargée. Moi, j'aime beaucoup cette immagine carica. L'image est chargée de tension, parce que ça, c'est la chose qui l'intéressait le plus, communiquer cette tension.
Le blanc, dehors, une réalité comme inexistante. Et dedans, les taches sombres, filles incluses, ont un sens. La fille elle-même est un objet. Un personnage sans visage, sans histoire. Que nous connaissons déjà presque parfaitement, tant le plan est beau. Je me rapproche et, tandis qu'elle me prépare un autre verre, je lui demande son nom. Delita. Comment ? Delita. Comme le délit, le crime ? Oui, mais avec un A. Je la regarde ahurie. C'est mon père, explique-t-elle. Il disait que c'était un crime, dans sa condition, que de mettre des enfants au monde. Mais ma mère en voulait un, alors lui, il a dit c'est bon, mais nous l'appelons Delie. Et comme je suis une fille, voilà. Je pourrais la questionner jusqu'à l'épuisement, la suivre pas à pas, et tout au long du jour, par les rues de son village venteux, et dans sa maison, certainement propre. Et bien en ordre. Je suis sûre que je n'aurai plus de surprises et que l'unique et absurde bizarrerie de sa vie resterait son nom, Delita, comme Delie avec un A.
Si Fellini fait penser plutôt à des peintres du mouvement comme Paolo Uccello et comme Pollaiolo, par exemple, qui est un peintre formidable, mais qui n'est pas très connu en France, Antonioni fait plutôt penser, et je crois qu'il accepte absolument cette filiation, à Piero della Francesca, qui n'est pas un hasard s'il a été redécouvert par les Nordiques, parce qu'il était disparu complètement. Or, Piero
cette
della Francesca,
staticité...
c'est exactement ça, cette capacité invraisemblable d'abstraction totale, les paysages réduits vraiment à... dépouillé totalement, on dirait presque de Mizoguchi avant l'être.
Aldo Tassone.
Moi, je crois que effectivement cette immobilité du tableau d'Urbino, le grand duc et la duchesse d'Urbino, avec ses premiers plans sur qui s'estompe sur un fond presque lunaire. On pourrait très bien voir un premier plan de Monica Vitti sur le fond de l'Isole Eolie dans l'Aventura. Cette juxtaposition, c'est plus ou moins la même. Un fond qui n'exprime rien. Et qui est quand même la transposition du néant, du vide qui est à l'intérieur du personnage. Or, ce rapport entre le premier plan, disons, l'être humain et les paysages, qui est une des grandes données d'Antonioni, là je crois que les Français ont déjà beaucoup parlé de ça, j'ai lu beaucoup de choses là-dessus, peut-être même trop, mais quand même, cette grande donnée, c'est quand même une filiation directe de la grande peinture italien de la Renaissance, même s'il ne fait pas peintre, mais il a l'œil d'un peintre. Moi, je pense que c'est plutôt un grand reporter, photoreporter, un œil prodigieux, et un peintre qui tend vers l'abstraction plutôt qu'un conteur.
Ou qu'un philosophe.
On a parlé de Proust, mais quand même, même s'il parle des intermittences du cœur, c'est un peu le poète, le cinéaste du passage. Il n'y a pas l'enchaînement des actes, des faits comme dans les autres cinéastes. D'ailleurs, il n'y a jamais la causalité. Il regarde simplement un homme dans un paysage. Mais même s'il y a ça, mais en tout cas, il est surtout, surtout du côté de la peinture. Ce n'est pas un hasard qu'il a fini sa vie. C'est-à-dire qu'il est actuellement en train de peindre des montagnes. Qui sont comme les montagnes de Zabriskie Point, comme le désert de Zabriskie Point, des petites montagnes de grandeur 4 postales.
Même plus petites, quelquefois.
Même plus petites.
Comme un timbre
qui
poste.
Sont, exactement, qu'il développe plus tard, il filme, donc il photographie, il développe, il change un petit peu les couleurs, et sont des tableaux abstraits, si vous voulez, à la clé, on pourrait dire. Donc l'œil photographique d'Antonioni est fils de toute une civilisation. Certes, il n'y en a pas beaucoup d'artistes italiens dans le cinéma qui soient si abstraits, et peut-être c'est ça sa caractéristique, peut-être, comme dit Fellini dans un fameux jugement, il est un peu un rigoureux moine. D'ailleurs,
ascète,
c'est un ascète un peu. Je ne dirais pas que c'est un philosophe. J'insisterai sur le côté peintre et sur le côté lyrisme. Philosophe, c'est peut-être nous les critiques que pour nous donner un petit peu d'importance, on trouve des ascendances dans la phénoménologie de. Ou sinon, je ne sais pas, chacun sort sa culture pour paraître plus intelligent. D'ailleurs, je crois que lui aussi, il se prête. Moi, j'ai assisté à deux jours de débat à Ferrare il y a 5-6 ans, quand je préparais mon bouquin là, sur lui, et je ne prenais que des notes, et il était à côté de moi. Et plusieurs fois, j'ai entendu faire dire comme ça, quand il y avait des concepts. Tu vois, très dans la phénoménologie ou dans la pure, je ne sais pas, certaines thèses de Deleuze, par exemple, Antonioni obsédé par le cadre, je dirais plutôt par l'image plutôt que par le cadre. Oui, sont des images très très belles, mais il ne faut pas trop. Je crois que la critique a rendu Antonioni ennuyeux. Beaucoup de critiques. Je crois que c'est une erreur, parce que si on regarde ces films, Le Cri par exemple, Le Cri c'est un film, un ouvrier abandonné par sa femme dans une plaine qui tâche d'oublier cette femme, il n'y arrive jamais, il la cherche dans toutes les femmes qu'il rencontre, et puis il revient en voyant que sa femme s'est recréée la vie ailleurs, il se suicide. Tout est d'une telle simplicité, d'une telle intériorité, d'une telle émotion. Et moi je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas dire qu'il y a du De Sica là-dedans. Ou si tu veux, il y a du Rossellini, très bien, Stromboli, Europe 51. D'ailleurs, plusieurs thèmes d'Antonioni ont été, c'est déjà Godard qui le disait, ont été déjà avancés par Rossellini, la crise de la femme, etc., en 1948, 49, 50. Je crois qu'il faudrait être beaucoup plus près de la matière en parlant d'Antonioni. Il faudrait avoir son œil et ne pas trop philosopher sur ce qu'il fait. Ce n'est pas un philosophe, ni un phénoménologue, c'est un poète. C'est un poète, et je crois qu'il y avait un metteur en scène italien, un écrivain italien, Mario Soldati, qui d'ailleurs n'était pas très antonionien, a donné d'Antonioni une définition très belle. C'est un esthète très aristocratique, très raffiné, mais désespéré. Pas sûr de lui-même. Et il a besoin d'histoires très raréfiées pour pouvoir les remplir par son émotion lyrique très très puissante. Et moi je trouve que sur ce souffle lyrique d'Antonioni, on n'a pas assez parlé. Mais il faudrait revoir ce film.
Là-bas vit une fille. Elle n'est même pas amoureuse de moi. Où ai-je lu cette phrase ? Je pourrais en faire le symbole de notre jeunesse à Ferrare, de ma jeunesse et de celle de mes contemporains. Nous n'avions pas d'autres préoccupations. L'odeur du chanvre, celle de la pulpe de betterave sur les chariots qui faisaient la navette avec les raffineries des sucres. Celle du fleuve, d'herbe et de boue. Toutes ces odeurs qui se mélangeaient à celles de la femme, l'été, à celles des parfums bon marché dans les bals populaires, l'hiver. Les rues longues et larges, rues de ville de plaine, belles et tranquilles, comme invitant à l'élégance, au loisir, à la dissipation. Les interminables bavardages au coin de ces rues, en pleine nuit, avec des amis et dont le sujet était toujours la femme. Certains soirs, nous allions dans les auberges boire du vin, mais je n'aimais pas me saouler, perdre conscience de cette légère dépravation. Certains autres soirs, j'allais seule dans un immeuble populaire et j'y restais la nuit avec une fille. Je ne regrette pas d'avoir passé ainsi tant d'heures de ma vie et pour cela je peux en parler. Nous nous mettions sur l'escalier et restions là, dans le noir. Je voyais, à la lueur de la lune, une arche étonnante, et derrière, la cour du XVIe siècle. J'entendais des pas, des voix, dans l'ombre. Je me souviens d'une gosse, poussée dehors avec ces mots. « Va chercher ta putain de sœur. Où est-elle ?»« Sur le mur. La première que tu trouves, les jambes écartées, c'est elle. »
Je crois que Antonioni est venu en France en 1943 pour tourner un film comme assistant non voulu, mais imposé par la production italienne, la Scalera Film, des Visiteurs du soir de Carnet. Et je crois que les rapports se sont très mal passés parce que Carnet ne supportait pas l'idée qu'un Italien était là. Et cette atmosphère française, c'est gris. Et la technique, il répétait que Carnet savait très bien où mettre la caméra, que tout ça lui a appris quelque chose, parce qu'Antonioni me répétait une fois, moi j'ai pas eu de maître, j'ai comme maître mes yeux. Je crois que, même s'il n'a pas été assistant longtemps, mais quand même cet bref aperçu français, ça lui a beaucoup, l'a beaucoup impressionné. Une autre chose qui l'a beaucoup impressionné sûrement, c'était le fait de trouver à Nice, près des studios de la Victorine où s'est préparé le film, un livre de L'étranger de Camus. Et il a fait même un papier là-dessus. C'était la première fois qu'on parlait en Italie de Camus. Et je crois que si on fait un peu attention, certaines thématiques existentialistes, l'absurde, le néant, le vide, la maladie des sentiments, la réalité qui s'effrite, blow up, non, c'est déjà un petit peu dans l'optique de Camus, même s'il n'y avait pas le sens de l'absurde qu'il y avait chez Camus. Donc, cette ascendance française, on n'en a pas beaucoup parlé. Et moi, je pense qu'il faut la souligner. Du côté italien, il a été assistant au scénario, disons, co-scénariste de certains auteurs, le futur auteur du néoréalisme italien, qui est un peu nouvelle vague de l'époque, Visconti et Rossellini. On oublie, quand on dit Antonioni a apporté en Italie une technique nouvelle, un œil nouveau, par exemple le plan séquence, le plan long, l'alternance des premiers plans et des plans très très loin, très typique aussi de Mizoguchi par exemple, des japonais, parce qu'il y a un côté japonisant certainement chez Antonioni, c'est pas un hasard qu'il est très connu et très apprécié au Japon. Et quand on dit tout ça, mais en réalité on oublie que Visconti, dans Obsession et dans La Terre tremble, Obsession est du 43. Même pour le thème, Obsession fait penser un petit peu au premier film d'Antonioni, Chronique d'un amour. C'est là aussi un rapport, un délit, une femme qui veut faire commettre un délit à son amant pour supprimer le mari. Bon. Il y a quand même une relève, mais à Visconti arrivé directement par Renoir qui lui avait donné le livre de Kane, le facteur sonne toujours deux fois, tandis que chez Antonioni, il n'y a pas cette médiation littéraire. Mais disons, si on regarde la façon de cadrer et de monter, même une certaine froideur de regard chez Visconti, on peut dire que Antonioni a très 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 bien regardé. D'autre côté, il était quand même co-scénariste aussi de Rossellini, quand même une certaine attention aux objets, une certaine un œil de chroniqueur dépouillé, sec, même si Rossellini se servait encore du montage, et Antonioni non, mais quand même c'est évident, cet œil de prodigieux chroniqueur. Une troisième chose qui a beaucoup compté dans la formation d'Antonioni, je crois, même s'il a eu comme maître seulement ses propres yeux, j'ai trouvé que c'est une très belle auto-formulation, ironique d'ailleurs, c'était l'expérience dans le court-métrage. Antonioni en 1943, en même temps que Visconti tournait Ossessione sur la plaine du Pô, et dans les presque à 30 kilomètres sur le même fleuve Pô, qui est quand même le fleuve le plus important italien, là, Antonioni tournait Gente del Pô.
Un documentaire.
Un documentaire qui a été interrompu par la guerre, mais quand même un documentaire de 30 minutes.
Qui a pratiquement disparu.
La conclusion a disparu, la dernière bobine, comme la dernière bobine de Splendeur de Zamberson. Mais là, si on compare les deux films, on s'aperçoit que, d'un côté, il avait déjà un œil très, très aristocratique sur les choses. C'est pas le film de Holmy ou l'Arbre au sabot, hein, même si les paysans sont les mêmes. C'est un œil déjà assez lyrique et aristocratique et même déjà abstrait. Et en même temps, il tâche de raconter des histoires avec ses personnages. C'est pas un documentaire, c'est un peu l'histoire de la Talente. Là, déjà, donc, il y avait un œil déjà très lyrique et très documentaire, mais en même temps, une volonté de créer une sorte de roman. Mais disons, tous les cinéastes italiens de l'après-guerre, tout le monde a appris à regarder par les yeux d'Antonioni, qui jetait sur la réalité un œil vierge, un œil d'esthète et en même temps de post-néoréaliste. Une dernière chose, les rapports entre le néoréalisme et Antonioni. Je crois que Antonioni s'est tout de suite détaché de ce courant. Déjà dans ses courts-métrages, on voit très bien que c'est pas le même œil. La réalité est telle quelle, mais l'œil avec lequel il le regarde, c'est l'œil d'un esthète, déjà. D'un peintre qui tend vers l'abstraction et vers le roman. Et puis surtout, l'œil de documentaire et l'attention très forte pour l'hérédité de tous les artistes italiens de la grande peinture de la Renaissance.
Faut pas oublier qu'il est né à Ferrara, qui était une des cours les plus...
Et puis Ferrara, là où est né pratiquement De Chirico, en 1916 et 17, toutes les places d'Italie ont commencé à... C'est pas un hasard qu'il aimait beaucoup De Chirico et qu'il a le même pouvoir d'abstraction. On pourrait presque dire que les énigmes d'une rue ou d'une place, ça pourrait très bien s'appliquer au tout cinéma d'Antonioni. Énigmes, variations sur les énigmes d'une rue.
Sous la rotonde du Grand Hôtel, à Rimini, encore fermé par le fil de fer barbelé qui l'entoure l'hiver, deux fillettes d'environ 10 ans sont en train de jouer. L'une fait le tour de la rotonde à bicyclette. L'autre met les mains par terre avec agilité et en les appuyant sur le sable, se raidit à la verticale, les jupes sur son visage, les jambes maigres, droites en l'air. Puis, elle se laisse tomber de l'autre côté et recommence. Celle qui tourne à bicyclette, sous la rotonde, à chaque passage appelle son amie. Edna, Edna. Et puis, elle continue, sur un ton de complainte. Quel amour, quelle douleur. Elle disparaît, réapparaît. Quel amour, quelle douleur. C'est tôt. Le matin, il n'y a personne sur la plage, hors ces deux fillettes et moi. Pas d'autre bruit que celui de la mer et cette voix subtile qui chante amour et douleur. Pendant toute la journée, pour moi, cela fut un film.
Monsieur Antonioni, que vous laissez souvent la bride sur le cou à vos comédiens et que vous les laissez improviser. Est-ce exact?
Pendant les tournages, je laissais parfois la caméra tourner, même quand la scène s'était finie. Pour avoir des acteurs, peut-être les moments les plus sincères, parce qu'ils étaient eux-mêmes.
Juste lire avec vous une phrase de Roland Barthes dans une lettre qu'il adresse à Antonioni, où il dit: vous avez à mes yeux les trois vertus de l'artiste, la vigilance, la sagesse et la fragilité. Et à propos de la fragilité, il dit: un autre motif de fragilité, c'est la fermeté et l'insistance de son regard, du regard de l'artiste. Le pouvoir, quel qu'il soit, parce qu'il est violence, ne regarde jamais. S'il regardait une minute de plus, une minute de trop, il perdrait son essence de pouvoir. L'artiste, lui, s'arrête et regarde longuement. Et je puis imaginer que vous, vous êtes fait cinéaste parce que la caméra est un œil, contraint par disposition technique de regarder. Ce que vous ajoutez à cette disposition, c'est de regarder les choses radicalement jusqu'à leur épuisement. C'est de les regarder aussi après leur fin. On sait par exemple que Antonioni aime beaucoup filmer une scène une fois qu'elle est terminée, une fois que l'acteur n'a plus rien à dire.
Oui, oui, jusqu'à leur épuisement, c'est une très très bonne idée. C'est une très bonne notion, effectivement. Et surtout cette notion très importante aussi que note Barthes, qui est que la caméra est un œil qui est contraint de regarder. Alors, je crois qu'Antonioni est effectivement quelqu'un qui a pris très très au sérieux ce caractère d'œil mécanique et inhumain qu'est la caméra. La plupart des cinéastes essayent justement de l'humaniser au maximum, enfin de densifier. Au contraire, la caméra est quelque chose justement qui peut continuer de filmer alors que plus rien de vivant n'est derrière et rien de vivant n'est forcément devant et rien de qui appelle particulièrement l'attention. Mais elle définit un cadre, elle définit un espace dans lequel cet œil continue de fonctionner. Ce principe d'inertie est quelque chose qui est pris tout à fait au sérieux comme une espèce de chance, enfin, et de c'est le pinceau propre du cinéma que l'enregistrement ici, cette inertie comme ça de l'enregistrement prodigue. Et alors, bon, évidemment, Antonioni n'est pas quelqu'un de paresseux, hein, c'est pas quelqu'un non plus d'avant-gardiste, au sens où Andy Warhol, justement, a tiré parti de cette neutralité et de cette inertie de l'enregistrement pour planter sa caméra dans Soho et puis laisser filmer. C'est pas ça. Au contraire, ce sont des plans très compliqués, en général, techniquement très sophistiqués, très complexes, que met en jeu Antonioni, mais pour donner un... l'équivalent le plus fort, je crois toujours, ou le plus audacieux, et dans la fiction, de cette espèce d'inertie, de cet œil inhumain qui regarde, qui enregistre ce qui
se passe quand il ne se passe rien.
Ce qui se passe aussi bien quand il ne se passe rien ou quand il ne se passe plus rien, quand les sentiments sont morts, quand les personnages sont morts, comme si la caméra était capable, et d'une certaine façon elle l'est, de continuer à filmer quand il n'y a plus absolument plus aucune vie sur Terre. Oui, c'est ça, jusque dans l'épuisement des choses. Bon, on peut très bien imaginer, effectivement, que si toute vie disparaissait sur Terre, une caméra qui aurait été mise en marche pour durer continuerait de filmer la poussière qui s'accumule, les corps en décomposition, les choses qui se désagrègent. Il y a ce fantasme, enfin j'ai l'impression chez Antonioni, d'essayer de pouvoir filmer comme si effectivement tout était disparu. D'une façon de témoigner aussi d'une sorte de pérennité de la vie, cet œil qui continue de fonctionner.
Reg.
Sous l'image révélée, il y a une autre image, plus fidèle à la réalité. Et sous celle-là, une autre encore. Et sous cette dernière, une autre encore. Et de nouveau une autre, sous cette dernière. Jusqu'à la vraie image de cette réalité, absolue, mystérieuse, que personne ne verra jamais. Ou peut-être jusqu'à la décomposition de n'importe quelle image, de n'importe quelle réalité.
Bien. Très bon, très bon. Reste comme ça.
Ce métier de photographe et les problèmes qui surgissent dans, dans la vie de ce photographe, on peut le prendre un peu comme la transposition du métier de cinéaste ou du métier d'artiste en général, dans la mesure où, où l'artiste est quelqu'un qui essaye de capter d'une part et d'approfondir d'autre part la réalité.
Maintenant, après, a posteriori, je peux dire que c'était juste, il me semble, de prendre comme protagoniste de mon film le photographe, parce qu'il a, il a dans les mains quelque chose qui n'est pas tout à fait absolu. C'est-à-dire quelque chose qui se casse très facilement, qui s'abîme, qui est la pellicule. C'est-à-dire qu'il a dans les mains une réalité qui est fragile, oui, qui s'efface très, très vite. Mm-hmm. Et ça, c'est le thème du film.
C'est ça. Enfin, la photo est quelque chose d'entièrement superficiel. Il y a évidemment dans votre film un autre personnage secondaire, comme on dit, parce qu'on ne le voit pas beaucoup, mais important, je crois, qui est celui d'un peintre, et dont la vie est consacrée aussi à des surfaces qui prennent une certaine forme, oui. Et cette forme ensuite, plus tard, comme il est dit dans le film, leur signification. On peut faire un parallèle entre ce photographe et ce peintre,
oui.
D'une part, entre ce photographe, ce peintre, et le cinéaste, d'autre part, ou tout créateur en général.
Oui. Il y a une chose qui m'a toujours étonné en faisant ce métier, c'est que il y a un système, pour le moment c'est un système de développement de la pellicule qui regarde seulement les blancs et noirs, qui s'appelle, je ne sais pas les mots français, mais en italien c'est la l'intensificazione.
L'intensification, oui.
L'intensificazione, mm-hmm. Oui. C'est-à-dire qu'en appliquant ce système, on réussit à tirer de la pellicule beaucoup plus
qu'on a enregistré.
On a tout enregistré, ouais. Mais on se demande, en poussant ce système plus loin, on arrive à découvrir des choses qu'on n'a pas vues, vraiment, qu'on ne voit pas,
ouais.
Que seulement la pellicule peut révéler.
La pellicule est un procédé chimique. Cas-là, et qui peut être intellectuel d'une autre manière, qui révèle des choses qui échappent
On peut tourner avec la lumière d'une chandelle dans une rue.
C'est ça, ouais. Et obtenir une pellicule noire ou blanche,
oui.
Un négatif blanc.
Alors, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? On ne sait pas. C'est fou, on arrive au microcosme.
De Blow Up, vous parlez d'un négatif du récit.
C'est sur le terme que vous souhaitez des éclaircissements?
Oui, j'aimerais savoir ce que vous entendez par négatif du récit. Et précisément dans un film qui s'appelle Blow Up, où tout tourne autour de la photo, et donc aussi bien du négatif que...
Bien sûr, le terme est emprunté à ce grand détour que connaît le photographe, qui à un moment donné cesse de photographier pour s'interroger sur le montage de ses photographies, pour les regarder, pour les organiser dans de multiples séries de sens possibles dont il ne choisit aucune, mais qui néanmoins lui découvre la possibilité d'un sens qu'il refusera d'ailleurs ou qu'il perdra. Bien sûr, le terme est emprunté à la pratique photographique et à l'exigence qui s'y lie, suivant laquelle, pour voir une image, il faut commencer par rendre visible l'inversion de cette image, en changer les rapports noirs et blancs, donc en inverser les lignes de force. Et cette étape intermédiaire est l'étape qui permet ensuite de passer au positif et à la visibilité. Si j'ai employé le terme de négatif à propos du récit antonionien dans The Blow Up, c'est qu'il me semble que l'ensemble du récit est pris dans ce passage au négatif, c'est-à-dire dans ce mouvement d'inversion des lignes de force, suivant lequel, au lieu que le récit nous conduise fermement à sa fin, il ouvre en son sein de multiples pistes qui ne seront pas empruntées. C'est ça la force d'Antonioni, c'est de nous proposer des récits dans lesquels des bifurcations sont amorcées. Mais ces bifurcations sont ouvertes et ne sont pas menées à terme. Elles restent ouvertes dans le récit, elles l'ouvrent en y inscrivant d'autres lignes possibles. Si bien que le récit se construit sur la multiplicité de ces lignes ouvertes, non saturées, non refermées, qui donnent à la narrativité dans Blow Up une forme très lacunaire.
Sur la rive, au-dessus du fleuve, il y a une bande d'un vert agressif qui domine le paysage. Dans ce vert, on voit surgir une maison rouge. Et plus haut, au-dessus du toit de cette maison, on en voit une autre plus petite, couleur brique. À gauche, il y a un toit à moitié caché par des arbres et une façade jaune. Cette maison donne l'étrange impression de ne reposer sur rien. Je suis sûre qu'il y a une histoire dans cette masse de volumes. Des histoires, il y en a partout. Mais ici, la composition est trop insolite. Et les volumes s'articulent d'une façon trop secrète pour ne pas cacher quelque chose de particulier. Cet espace, entre les maisons de droite et celles de gauche, ne peut pas ne pas avoir le sens d'une cassure. De même que le voisinage du fleuve a un sens. Ces deux pontons, avec leurs plateformes désertes, même en été, et ces canaux, si lents lorsqu'ils remontent la mer, et si rapides lorsqu'ils glissent avec le courant.
Je dirais même, enfin, à la fin du film, il y a un renoncement à saisir une réalité. Quand dans la scène finale, vous vous souvenez...
Dans la partie de tennis.
Oui, où la partie de tennis est mimée, ou même le son. Enfin, le son apparaît sur la bande sonore du film, alors que la balle n'est pas là. Enfin, il me semble qu'il y a un renoncement définitif à choisir entre... entre la réalité et l'apparence, je ne sais pas.
Je ne suis pas sûre que cette fin ne marque pas un abandon du héros, du personnage,
oui.
En tout cas. Et le fait qu'ici, le film abandonne son personnage, qui cède à l'illusion, qui cède précisément à la tentation de croire qu'il y a du bruit, du son, et de la réalité là où il n'y a eu que des images. Mais il me semble que cette partie de tennis est en contrariété intervient comme une solution contraire par rapport aux autres voies qui se sont ouvertes pour le photographe et que le film a tramé, tissé, en particulier dans la recherche qu'il avait engagée sur les négatifs photographiques dont il a tiré quelques positifs pour essayer de les monter, de les comprendre, de les organiser. Et dans cette recherche où tout l'espace photographique prend la place de l'espace filmique à un moment donné du film, n'est-ce pas, où une grande poche d'instantané se constitue avec des montages variables, des lignes variables, des sens variables, qui fait que la signification de ce montage reste entièrement ouverte, à un moment donné, il y a une ligne qui s'ouvre. C'est la ligne de la mort. C'est la ligne suivant laquelle, à force de recadrer, d'agrandir, de changer l'ordre du montage, de rapprocher de nouvelles photographies, à force de faire donc cette recherche patiente sur toutes les possibilités qui s'ouvrent à lui, le photographe semble apercevoir, à un moment donné dans une des images, la trace de la mort, la trace d'un mort. Cette trace lui sera proposée sous une forme réalisable lorsqu'il retourne dans le parc pour vérifier ce qu'il a cru lire dans une des lignes photographiques qui lui étaient proposées par les différents montages qu'il a essayés. Et retourné au parc, il découvre en effet la possibilité de voir un cadavre.
Il le voit.
Il le voit même dans probablement un des rares regards subjectifs qui soit proposé par le film. Mais précisément, il le laisse. Il repart. Et lorsqu'il retourne au parc, il n'y a plus rien. Cette ligne a été ouverte. Elle n'a pas été saturée. Elle est comme l'ombre du film qui est venu doubler le récit. Ombre de la mort, ombre d'un devenir sujet dans la découverte de la mort, ombre que précisément refuse le photographe, qui part ailleurs. Et la force du film antonionien est précisément de nous montrer qu'il y a dans tout récit cette direction possible vers la mort, mais que cette direction possible vers la mort est d'une certaine manière interdite au personnage. Beaucoup des récits d'Antonioni ouvrent cette ligne de la mort, soit sous forme de simulacre, soit sous forme de piste amorcée et refusée. Et il ne la joue pas. On pourrait montrer comment, dans l'Aventura, à l'ouverture du film, il y a une femme disparue, comme dirait Hitchcock. Mais cette femme disparue, elle disparaît du film. C'est-à-dire qu'elle joue la littéralité de la disparition. Est-elle morte? N'est-elle pas morte? On ne sait pas. Il y a la menace d'un requin qui serait la menace de la mort, mais la menace du requin est un simulacre. Beaucoup des films d'Antonioni ouvrent ainsi des pistes autres, des pistes vers l'événement radical qui serait l'événement de la mort. Mais cet événement de la mort, il ne l'ouvre pas pour en saturer le récit. Il montre que précisément, le récit ne peut pas aller vers la mort, parce que ce serait s'accomplir dans quelque chose qui le nierait soi-même. Et qu'à ce titre, il va vers une histoire qui s'achève sur un dénouement ordinaire, banal, ou sur une absence de dénouement. Mais cette histoire qui a lieu dans l'ombre, le détour d'un autre courant qui le conduirait vers cette mort interdite.
Autrement dit, peut-être que la mort ne peut apparaître que comme une trace fugitive. Enfin, je pense aussi à, justement à ces développements successifs et agrandissements successifs où, à un moment donné, quelque chose apparaît, quelque chose qu'on n'avait pas vu, mais au développement, à l'agrandissement suivant, cette chose disparaît à nouveau. Comme s'il y avait un moment, un seul moment possible, où on pouvait saisir une certaine réalité, mais avant ou juste après, c'est...
Sous une forme de trace, on ne saisit jamais la réalité de la mort. l'instant de la mort n'est pas représentable en tant que tel. Et c'est aussi ce que nous dit Blow-up, précisément parce que la mort n'apparaît que sous forme de traces, d'indices, après coup, hors champ, ou lorsqu'on revient au parc pour découvrir le corps, c'est à un corps déjà mort qu'on a affaire. Et je pense, en évoquant ces fragments d'Antonioni, à cette phrase de Maurice Blanchot dans L'Espace littéraire, qui, réfléchissant sur Kafka, sur le romantisme allemand, signale l'impossibilité de mourir à laquelle répond le courant romantique allemand, en signalant en particulier que jamais, je cite, « je ne meurs ». Parce que jamais je ne peux dire « je ne meurs ». Jamais je ne suis maître de ma mort. Jamais le sujet ne s'accomplit en maîtrisant, découvrant et déclarant sa mort. Le propre de la mort est précisément de dérober le sujet à soi. Et c'est cette dérobade que l'écriture d'Antonioni me paraît inscrire dans une ligne narrative qui continue à raconter, mais qui continue à raconter en inscrivant le détour du récit dans le récit.
Au fond, on ne sait pas ce que veut dire le mot mort ou on ne sait pas ce que veut dire le mot agonie. Il y a une forme de disparition comme ça qui est, semble-t-il, ce à quoi s'attache Antonioni. Alors, il y a ce plan final magnifique de Profession Reporter, film un peu méconnu, je crois, dans l'œuvre d'Antonioni avec Jack Nicholson et Maria Schneider, où le personnage effectivement est tué à la fin. Mais cette mort du personnage s'accompagne d'un plan. La caméra recule de la chambre où le meurtre va avoir lieu et se perd dans un paysage quelconque, si on veut, empli de déambulations quelconques, d'une façon tout à fait extraordinaire. Comme si le personnage non seulement mourait ponctuellement, mais un personnage qui meurt, ça reste un personnage, ça peut être très émouvant, ça peut rester un personnage très, très plein, si on veut. Là, il mourait doublement, à la fois en tant que personnage dans une histoire de meurtre, puisqu'il est tué par des tueurs ayant pris la place d'un autre, mais il est déjà mort d'ailleurs, ayant quitté volontairement son identité pour prendre celle d'un autre, et d'un autre qui est mort. Mais en plus, il disparaît doublement, il disparaît de l'image, pour que l'image elle-même dissolve les qualités pleines du personnage dans un ensemble de mouvements quelconques. C'est quelque chose tout à fait stupéfiant, d'une certaine façon. Cet enveloppement de morts successives, ou cette disparition à surmultiplier, si on veut, que raconte Profession Reporter.
C'est comme une dilatation, à l'infini de ce sentiment de disparition.
Oui, seulement, ce qu'il y a, c'est que bon, tout ça, ça paraît pas drôle du tout, ça paraît très triste, mais disparaître n'est pas forcément quelque chose de triste. Ça peut être une sorte d'expérience, mystique, mais enfin, bon, disons, oui, si on veut, d'une certaine façon. Et l'expérience du peintre, c'est aussi que les choses disparaissent, mais non pas négativement et tristement, mais dans une explosion de formes colorées, de choses comme ça. Bon, on peut évoquer d'ailleurs, à propos d'Antonioni, on peut évoquer le chef-d'œuvre inconnu de Balzac, hein, dont on sait que c'est l'histoire d'un peintre qui est le plus grand de sa génération et qui scelle dans son atelier une peinture intitulée La Belle Noiseuse, qui serait une peinture où la vie même aurait été captée, enfin, sur la toile. Et quand les témoins découvrent cette toile, ça n'est plus qu'une un champ coloré où plus aucune forme n'est visible, à l'exception d'un splendide, sublime pied nu qui reste visible dans le coin d'une toile. Eh bien, je crois que chez Antonioni, il y a cette expérience ultime, si on veut, du peintre, et de la peinture d'ailleurs, qui est celle de la peinture moderne, si on veut aussi, d'une certaine façon, la disparition des formes dans un espace complètement libre. C'est ce qui est exprimé sous forme de rêve à la fin de Zabriskie Point, où un appartement américain, les pièces d'un appartement américain explosent de façon onirique, et cette explosion est filmée au ralenti. Cette explosion devient quelque chose, non seulement l'expression du souhait jeune fille à la fin du film, mais en même temps une réelle expérience plastique, quelque chose, une sorte de désagrégation positive, là, effectivement, sous forme d'explosion, où des frigidaires sont éventrés par une explosion et tout le contenu vole à travers l'espace. Et c'est très, très étonnant, cette espèce de désir de que les choses se disséminent. Tellement bien de faire un cinéma où les personnages disparaissent en tant que tels, d'une façon tout à fait profonde, métaphysique, et pas seulement tiens, bah, si on faisait un film sans personnages, c'est pas ça. Mais dans l'éclipse, je crois qu'à la fin, il y a ça. Il y a cette, enfin, l'éclipse, bon, c'est aussi un titre parlant, bien sûr. C'est quelque chose où il faut rendre compte, enfin, du fait que la notion de personnage n'est peut-être pas aussi solide. On a l'habitude de le croire, que y a des trous, enfin il y a des pores, enfin c'est des notions poreuses. Il faut agrandir les trous, il faut chercher au-delà, il faut explorer un espace plus complexe, enfin où ils sont pris dans des ensembles, ils sont traversés par des choses qui les trouent, qui les divisent, qui les déchiquettent. Il y a cette recherche. Alors c'est pas facile parce que justement le cinéma a besoin de personnages solides, de personnages avec des caractères, des métiers, des affections, des projets, des choses comme ça, enfin tout ce qui fait qu'on on va encore au cinéma, eh ben, il faut introduire des bouts de dynamite dans tout ça. Il y a ce projet, dans le cinéma d'Antonioni, il y a ce projet. Il faut aller plus profond que ça. Et ça se fait par le biais justement de personnages, on peut dire, malades du sentiment, malades de sentir le vide en eux-mêmes. Bon, alors s'ils sentent le vide en eux-mêmes, bon. Si on s'arrête à ce niveau-là, il y a un sentiment qui peut être de réaction agacée ou d'ennui. On ne va pas encore voir des personnages qui s'emmerdent ou qui se détruisent ou qui sont maussades. Mais bien sûr, si c'était que ça, ce serait des fictions démoralisantes, simplement. Mais comme il s'agit, en fait, d'une expérience beaucoup plus profonde... qu'on sait que c'est pas du tout ça, c'est pas montrer l'amorosité. Si Antonioni était simplement quelqu'un qui montrait l'amorosité d'une classe sociale désenchantée, je crois que ses films seraient terriblement, au bout d'un moment, terriblement datés. Mais on sent bien que ce sont pas des films justement psychosociologiques, qu'il s'agit de tout à fait autre chose, d'une recherche presque métaphysique, je crois. Et ça passe effectivement par l'éclipse des personnages, par une disparition spéciale, enfin paradoxale, que bon, j'essaye de traduire en mots, mais c'est pas très facile. Il faut faire l'expérience du film, je crois, lui-même, pour sentir ça. Et qui concerne, qui concerne tous, après tout. Quand on se regarde dans la glace, on se sent être quelqu'un d'assez précis, mais en un certain sens, c'est pas comme ça que les choses se passent.
Antonioni raconte que l'idée du film de l'éclipse lui était venue en observant justement une éclipse de soleil et que dans cette obscurité, ce silence qui suivait l'éclipse, il avait pensé qu'à ce moment-là, les sentiments aussi devaient s'éclipser, devaient être absents.
Oui, je crois qu'il s'agit effectivement d'une espèce de quête métaphysique assez particulière, enfin, dans ces films. Et c'est aussi pourquoi il y a une présence particulière du désert dans ces films. Bon, c'est un cinéaste très citadin, très italien du Nord, bon, enfin, on l'a dit, très civilisé, et il y a une présence fréquente du désert. Bon, il y a le titre, Le désert rouge, qui l'annonce comme ça, mais il y a ce côté désert, comme ça, de la plaine du Pô dans Le Cri. Il y a le désert de Zabriskie Point, enfin la vallée de la mort, qui est un objet, ce pourquoi, enfin je ne dis pas que c'est ce pourquoi il a fait le film, enfin c'était important, je pense. Il y a le désert dans Profession Reporter. Il y a cette espèce de tentation comme ça, qu'ont les personnages d'Antonioni d'ailleurs souvent, de disparaître. Et disparaître, ça veut dire aussi aller au désert. Enfin, c'est aller vers le désert. Le désert est la représentation spatiale. C'est un fantasme de l'homme occidental d'ailleurs. Bon, certains, comme ça, on connaît certains grands occidentaux, en fait, leur voyage au désert, ça peut avoir une forme épique, enfin, bon, comme Colonel Lawrence. Mais on sait que c'est une expérience mystique et une tentation. Eh bien, je crois que chez Antonioni, il y a ce désir qui est effectivement l'éclipse des sentiments, la disparition, disons, de tous ces oripeaux sentimentaux, enfin, qui nous accompagnent dans notre vie de tous les jours, et essayer d'aller au-delà de ça, et donc de disparaître d'une certaine façon. Éclipse des personnages, éclipse des sentiments, ça va de pair. Et ça va aussi, effectivement, avec une recherche spatiale, enfin, vraiment, d'essayer de trouver le désert, sous une forme ou sous une autre.
Je ne sais plus qui a dit que l'idéal pour Antonioni serait de faire un désert avec des personnages à 3 km, peut-être une Atlantide revue par lui, avec des personnages qui ne disent rien ou qui parlent, on n'entend rien. D'ailleurs, il y a une séquence fabuleuse dans La Nuit, autre film, un des 3 ou 4 meilleurs, dont on ne parle jamais, mais c'est formidable, La Nuit, plus intéressante, plus complet, à mon avis, même plus moderne et plus beau que l'aventure, qui a eu une importance historique. Le moment où Jeanne Moreau quitte la réception, parce qu'elle a vu que son mari est en train de la trahir avec Valentina, Monica Vitti, la fille du propriétaire de l'industriel qui l'a invitée chez lui, et elle part sur, accepte l'invitation d'un inconnu. Et alors ils partent sur une voiture très belle, et les voitures s'arrêtent, s'arrête un feu rouge, il pleut des cordes, et tout ce qui se passe entre eux, on n'en sait rien, parce que la caméra reste 4 minutes, un panoramique lente à côté, travelling panoramique, et puis finalement, on voit les deux qui se parlent, on entend simplement le bruit de la pluie, et de l'orage,
des essuie-glaces.
Et puis on voit simplement le spectacle prodigieusement beau des rivières, de l'eau qui glisse, comme il disait avant, la poussière sur le vitre. Or, ça, c'est évident, ça, c'est son idéal. Des personnages qui parlent, mais on n'entend pas ce qu'ils disent, mais qui sont à l'intérieur de quelque chose, d'un objet qui l'attire. Or, effectivement, on n'avait pas besoin de savoir ce qu'il se disait, parce qu'on avait parfaitement compris que cette aventure n'aurait pas abouti, et donc, ce qu'il se disait, ce n'était pas important. Mais là, effectivement, l'attention d'Antonioni, c'est peut-être ça, sa grande nouveauté, sa force révolutionnaire, surtout pour le cinéma italien, c'est d'avoir habitué une génération entière de cinéastes à regarder.
Proust avait une jolie formule d'ailleurs pour parler de ça, puisque c'est tout l'objet de la recherche du temps perdu d'une certaine façon aussi. Les êtres ne donnent pas une image immuable, une photographie fixe, mais ne cessent de bouger devant l'objectif déconcerté. Cette notion d'objectif déconcerté semble correspondre à quelque chose de l'expérience d'Antonioni.
Le film fini, la copie zéro prête, les doutes, les regrets, les hésitations. Fermé dans ses propres limites, on voudrait revenir en arrière, recommencer. Rien n'est aussi fini qu'un film quand il est fini. Peut-être une maison. On est découvert, exposé au regard, à l'ironie de tous, sans pouvoir raconter à personne sa propre aventure, personnelle, qui n'est pas enregistré dans le film, ni dans le scénario. Un souvenir, mais un curieux souvenir, comme un pressentiment, dont le film n'est qu'un témoignage, partiel, insuffisant. Michelangelo Antonioni par Francesca Isidori. Avec Jeanne Moreau, Pascal Bonizzer, Marie-Claire Ropard, Aldo Tassone. Groupe de réalisation Jean-Pierre Juncker, Jean-Michel Coqui, Claude Giovannetti. Document INA, Yves Buyer.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 9 mai 1989.